Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio.
Silence! Veuillez vous lever. La cour, présidée par l'honorable François-David Bernier, est déclarée ouverte.
Entrez dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous ne serez pas jugé.
Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
Avocat à la barre.
Cube Radio.
Bonjour, bienvenue à l'émission. Vous voulez en savoir plus sur l'actualité judiciaire, toutes les tournures? Évidemment, on ne veut pas vous endormir avec le droit, mais on vous explique comment ça marche, on peut le dire, la seule émission judiciaire à la radio. Aujourd'hui, évidemment, on revient. Moi, c'est un sujet qui me touche, le karaoké. Qui a permis de une contamination. Mais là, au gouvernement, on parle de reconfiner. Reconfiner quand, en réalité, je vois pas de sanctions qui sont données pour ceux qui respectent pas les règles, que ce soit les commerçants, le particulier, qui, au Québec, en ce moment, a peur de faire un gros party dans sa cour. Personne, il n'y a pas de sanctions, puis on parle de reconfiner, j'en reviens pas, puis on va en parler avec Maître Boily, on va en parler avec un restaurateur qui nous dit qu'il n'y a pas gros, il n'y a pas grands inspecteurs sur le terrain. Aussi, on parle des sujets de l'obligation de la vaccination, est-ce qu'on peut être obligé à se faire rentrer une aiguille dans le bras, à être vacciné? Et on commence tout ça avec Maître Boily qui est avec moi. Bonjour, Maître Boily.
Oui, bonjour.
Vous êtes prêt?
Ça me dit, ben,
revue de l'actualité judiciaire de la semaine.
Et juridique, tout à l'heure.
Judiciaire, juridique, on va dire c'est pareil.
Ouais,
on va dire judiciaire, OK?
On mêle tout ça.
Parfait.
Alors, on a eu une grosse semaine.
Bien, évidemment. Mais avant, on parlait beaucoup de la COVID. Là. Il y a d'autres sujets, toujours liés à la COVID. Cette semaine, on a vu la statue de John A. McDonald qui a été vandalisée. C'est une sorte de procès, Maître Boily, sur la place publique. Pourquoi cette statue-là?
Ben là, il y a une mode. Ça a démarré dans d'autres pays, mais là, c'est rendu au Canada. On est rendu là qu'on fait des procès. Le problème, là, puis j'ai vu plusieurs commentaires cette semaine dans les médias un peu partout. Les gens à Cube en ont parlé également. Là, on fait un procès de l'histoire. Alors, le problème légal qu'on a, c'est lorsqu'on décide... Puis il peut avoir des raisons qui sont valables. Vous savez, il y a des gens dans l'histoire, ils n'ont pas Christophe Colomb, là, oui, il a découvert l'Amérique, là, mais c'est pas le gars qui... Il a beaucoup de sang à ses mains, ce qu'on sache. Il est allé en République dominicaine, après, puis il a passé une razzia là. Alors, des statues de Christophe Colomb, on peut comprendre qu'il y a des gens dans certaines communautés qui sont pas tout à fait d'accord avec ça. John A. McDonald, qui est le premier ministre du Canada, bon, lui, on dit qu'il était pas pour les Canadiens français, il était anti-autochtones également, il voulait assimiler la population, etc. Il en a fait même, il a fait pendre Louis Riel. Alors, oui, il y a des raisons pour ça, mais le problème qu'on a, nous autres, on est des avocats. Puis lorsqu'on dit qu'on veut faire un procès à quelqu'un, bien, il y a une règle de droit qui dit qu'on doit l'entendre, puis on doit surtout entendre les gens qui, à l'époque, ont pris des décisions. Il y a un certain Georges-Étienne Cartier aussi qui a fait partie du premier gouvernement canadien, à qui on peut faire des reproches. J'entendais cette semaine Gilles Proulx sur nos ondes dire: mais écoutez, au lieu peut-être d'avoir une statue de John A. McDonald, on aurait peut-être dû en donner à Lord Elgin ou encore à Lord Dorchester, qui sont des anglophones, mais qui ont aidé après ça les francophones. C'est une bonne idée, mais il ne faut pas oublier que l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire, on ne peut pas non plus. Vous savez, il y a des gens qui sont jugés suivant l'époque. Mario Dumont disait cette semaine, est-ce qu'on va tous condamner les rois de France? Parce qu'à l'époque, bon, écoutez, il mariait une petite fille à 14-15 ans, là, c'était pas intelligent, mais c'était l'époque, c'était comme ça. Alors, oui, il y a des choses qu'on peut reprocher, mais faire un procès à quelqu'un et aller attaquer des statues comme ça sans qu'il y ait de débat...
Mais qu'est-ce qu'on y reproche? J'ai mal compris.
Ah, bien, écoutez, il y a les reproches que j'ai dit tout à l'heure. Là. Il était contre les Canadiens français, première des choses. Il était également contre les Autochtones. On se souvient de la pendaison de Louis Riel au Manitoba. Bien, c'est un peu ça. Donc,
pourquoi ils ont vandalisé
ils ont décidé, c'est ça, parce qu'il y a comme une vague mondiale là, où on dit on dénonce dénonce les gens, puis c'est pas bête de dénoncer des gens aussi qui ont fait des choses pas correctes dans la vie. Mais le problème, c'est de faire des procès historiques alors qu'on n'est pas à l'époque.
Ouais. Puis moi, le problème que je vois aussi, là, c'est qu'il n'y a pas d'arrestation.
Ouais, ben, y a ça
ils ont
aussi.
Détruit le bien public comme si rien n'était.
Il pourrait avoir des accusations de méfaits, on le sait pas, le SPVN mais là-dessus, mais ils ont dit c'est arrivé tellement vite, ça a pris, elle était pas boulonnée, ça a l'air le statut. Elle a pas pris 20 secondes, ça a tombé, la tête a arraché.
Et moi, ça.
Alors, c'est des choses.
Ça me choque parce que. Tu sais, les pays qui ont pas d'état de droit, là, me semble que c'est cette image-là qu'on voit
exact,
tomber des statues. J'ai pas aimé ça.
Ça fait un peu cabochon, ouais, mais c'est ça qu'on a vécu cette semaine.
Autre nouvelle en France, le début du procès des responsables de l'attentat Charlie Hebdo. Gros procès à venir.
On sait que ça fait 5 ans déjà que les attentats, souvenez-vous, là, ils sont morts suite à cet attentat-là. Et là, évidemment, les principales personnes qui ont commis ça, certains ont perdu la vie et d'autres sont enfuis. Alors là, ce sont surtout les gens qui ont aidé, qui auraient collaboré à ces gens-là, qui auraient fait ces attentats-là, qui sont en procès. Alors, évidemment, en France, puis partout à travers l'Europe, puis même ici en Amérique, on suit ça. Parce que, évidemment, on parle de liberté de presse, on parle de liberté. Vous savez que cette semaine, Charlie Hebdo, pour marquer ça, ils ont repris ce qui avait fomenté cet attentat-là. Alors, c'est les caricatures de Mahomet, le prophète.
Ouais.
Puis là, évidemment, les gens de cette religion-là sont pas contents. Mais c'est la question, c'est toute la question de la liberté de la presse. Et souvenez-vous qu'à l'époque, il y a 5 ans, il y a beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue pour dire « Je suis Charlie. Qu'est-ce qui s'est fait depuis? Pas beaucoup. On entend beaucoup, lorsque ça arrive, il y a une tollée de protestataires qui disent, ben là, la liberté, c'est important. Puis depuis, on n'entend plus parler. Alors, ce procès-là est important pour en reparler, pour la mémoire, pour pas oublier ce qui s'est passé.
Puis d'ailleurs, je crois que le Charlie Hebdo a republié les mêmes caricatures qui avaient provoqué l'attentat.
Exactement. C'est ce qu'ils ont fait cette semaine.
OK. On va suivre ça avec attention, évidemment. Ensuite, les Américains prononcent des sanctions inédites contre la procureure de la Cour pénale internationale. C'est quoi, ça?
Celle-là est fort pas mal. Ça, là, vous savez, la Cour pénale internationale, c'est là pour empêcher des génocides. C'est là pour venir contrebalancer le fait de porter atteinte aux droits de la personne dans les endroits où on pense qu'il y a eu des choses qui sont pas correctes. Puis souvent, c'est des tueries de masse. On parle d'exactions, on parle de tous ces problèmes-là que des gens subissent. Or, les Américains, cette semaine, ça, c'est l'ami de Donald, votre ami le canard, Donald Trump, et c'est Mike Pompeo qui est secrétaire d'État américain qui a dit cette semaine, lorsque j'ai lu ça, puis j'ai vu les nouvelles sur les réseaux américains, j'ai dit, mais voyons, c'est pas vrai, il a pas pu faire ça. Alors lui, il a mis sa liste noire, la procureure générale de la Cour pénale internationale, en disant, puis le directeur de division de cette même cour-là, en disant, vos avoirs aux États-Unis vont être gelés, puis vous avez plus accès au système financier américain si vous êtes barré ici. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont osé dire que il y a peut-être eu des crimes de guerre en Afghanistan. Vous savez, les soldats américains ont été là. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Kaboul passer une semaine là, il y a plusieurs années, avec l'armée canadienne et voir ce qui s'était passé. Bon, il y a eu, des Américains ont été là et c'est pas toujours, vous savez, des fois, les militaires, dans des zones de guerre, c'est pas toujours jojo ce qui se passe, là. Et là, il y en a qui, semble-t-il, auraient abusé de leur pouvoir, auraient fait ce qu'on appelle les crimes de guerre. Alors, la Cour pénale internationale, elle est là pour ça, justement, pour faire des enquêtes. Et s'il y a des gens qui ont fait des choses pas correctes, ben, qu'ils soient pénalisés. Ah, M. Trump a décidé, lui, moi, je suis un juge. Moi, je décide, Trump, c'est moi le président des États-Unis, mes soldats ont rien fait, puis vous, la Cour pénale internationale, vu que vous avez décidé d'enquêter là-dessus, ben vous êtes des persona non grata chez nous. Mais ça n'a aucun bon sens. C'est comme si un quidam, en quelque part, décidait c'est qui va être jugé, puis c'est qui va pas être jugé. Le président américain n'a pas d'affaires là-dedans. Puis là, non seulement il n'a pas d'affaires, mais son secrétaire général décide de mettre des sanctions contre les gens qui s'occupent du tribunal international, alors que ces gens-là font juste leur job. C'est complètement ridicule.
Ouais, mais on n'est pas surpris.
Non, c'est bon. Trump.
Parce que même Trump veut se retirer de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est une stratégie qu'il y a d'envoyer promener l'international en disant qu'ils sont autosuffisants. On verra où ça mène. Ensuite, on va parler des vaccins obligatoires pour des employés. Maître Boily, qu'est-ce que vous pensez de ça? On va en parler plus tard avec un spécialiste, Maître...
Vous en avez parlé cette semaine à Martineau, là, Richard. Donc, oui, effectivement, il pourrait y avoir des demandes à cet effet-là. Rappelons-nous que la loi sur la santé publique permet, c'est l'article 123, là, qu'on sait qu'on le dit ad nauseam à l'émission, là, qui permet toutes sortes de choses qui permettraient un vaccin obligatoire. Or, l'employeur pourrait exiger, en quelque part, vous en parlerez avec votre interlocuteur plus tard, là, pourrait exiger ces choses-là. Donc,
c'est Maître Ménard.
Ça va venir, ça. Sur le sujet bientôt, puis on vous en avait parlé cette semaine, mais je sais que vous allez en reparler tout à l'heure.
Ouais, bien, qu'est-ce que vous en pensez?
Ben ouais, écoutez, je peux pas être contre la vertu, là. C'est certain que si ça protège des employés et la population, je pense qu'il va falloir en quelque part...
Et même si le gouvernement ne l'impose pas obligatoire, l'employeur pourrait...
Ben, il pourrait l'exiger parce que... ça va être contesté.
Excuse-moi, mais... ça chiambre les masques, imagine, parce que... On est tous dans les droits et libertés, consentement et aux soins.
Est-ce que c'est illégal de demander à quelqu'un de protéger les gens qui travaillent autour et de se protéger lui-même? Réponse, je pense que non, mais vous en parlerai avec Maître Ménard tout à l'heure.
Parfait. Rapidement, la famille Audet, on parle de Cogeco, là, qui dit non à 800 millions de dollars.
Ouais, ça, là...
Et, hey, c'est quoi, on entend la prise de l'acquisition agressive.
C'est ça. C'est-à-dire que il s'agit d'une offre, on peut appeler ça une offre hostile, mais c'est une offre qui est non provoquée. Alors donc, c'est une compagnie qui est Alcide qui décide, parce qu'eux autres, ils ont des réseaux au niveau des États-Unis, puis c'est mondial, là, c'est un Européen qui a ça, et un multimilliardaire. Alors lui a décidé qu'il voulait avoir, entre autres, avec Rogers, tout le réseau de Cogeco qu'on connaît au Québec. Là. Ici, évidemment, c'est la famille Audet qui est majoritaire là-dedans. Or, ce genre d'offres-là, parce que c'est une société qui est quand même cotée à la bourse, il faut comprendre que ces gens-là, ils ont l'option de refuser, c'est ce qu'ils ont fait. Il peut y avoir une deuxième offre. Il y a des jeux de coulisses qui se font là-dedans.
Ça ne veut pas dire que hostile, ça va pas vendre. Peuvent l'acquérir même s'ils ne veulent pas, qu'ils sont à la bourse.
Non, mais ils ne peuvent pas l'acquérir parce que l'autre, ils doivent voter et sont majoritaires. Donc, la famille Audet, tant qu'ils disent non, ils ne pourront pas. Donc, ce n'est pas une offre hostile.
C'est
une offre non sollicitée, mais elle n'est pas hostile parce qu'elle n'est pas faite aux actionnaires, mais les actionnaires vont voter. Audet sont majoritaires, ils vont dire non. Mais ils peuvent avoir une deuxième offre, par exemple, à 1 milliard ou plus. Et là, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit « chaque personne a son prix ». Ça pourrait arriver dans
ce cas-là. Et si je comprends bien, ils ne peuvent pas être forcés de vendre.
Non, pas à ce moment-ci.
Pas là. OK. Parfait. Merci, Maître Boily. On se reparle plus tard.
Bye.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Vous écoutez
Avocat à la barre.
Qui aurait dit que chanter dans un bar, crier à tue-tête, chanter comme un pied en positionnant pouvait être dangereux? Effectivement, vous avez vu cette semaine la nouvelle, possible interdiction des karaokés, parce que on sait qu'à Québec, dans Saint-Sauveur, il y a eu un bar de karaoké où est-ce qu'il y a eu une propagation de la contamination. Et là, ça relance un débat. Le gouvernement se dit, est-ce qu'on va reconfiner? Est-ce qu'on pourrait refermer ce genre d'établissement-là? Est-ce qu'on pourrait refermer les bars? Là, on se pose la question, est-ce que les restaurants, c'est correct? Par contre, je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un au Québec qui a peur de ne pas respecter les règles. On voit beaucoup de parties de maison, puis 10 personnes, c'est pas respecté. On sent un relâchement, le gouvernement l'a dit. Par contre, où sont les contraventions? Je pense pas que personne n'a peur d'en avoir en ce moment. Mais ça relance le débat. C'est sûr que ça inquiète le domaine parce qu'il y a des restaurateurs, des tenanciers de bar qui respectent les règles. C'est déjà pas facile. Et on en parle avec Alexandre Grenier, copropriétaire de l'Atelier à Québec et d'Ophélia. Bonjour, Alexandre.
Salut, comment ça va?
Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Chez toi, tu es avec ton restaurant très populaire à Québec. Tu es sur le terrain. Et dis-moi, Alexandre, est-ce que vous respectez les règles sanitaires?
Alors, de notre côté, on les respecte. On fait plus que ce qui est demandé autant par la CNSST que par la santé publique. Mm-hmm. Ceux qui sont venus au restaurant dernièrement ont pu le constater. On a posé des plexiglas à la grandeur du restaurant. On rentre chaque table.
Okay.
Au bar, on a également distancé des tables. On a coupé 50% de notre capacité. Tous nos serveurs travaillent masqués avec lunettes de protection. Donc oui, de l'autre côté, on fait très attention pour respecter les normes de sécurité publique.
Ah ouais, même des plexiglas. Ça a dû coûter cher de plexiglas parce que c'est quasiment une denrée rare ces temps-ci.
En tout cas, on s'était préparé de l'avance.
OK.
En se préparant, c'était pas compliqué. On pouvait avant la réouverture du restaurant facilement anticiper ce qui allait se passer.
Vous étiez prêt. Mais parlant de ça, ça doit pas être facile en tant que restaurateur, en tant que de COVID, parce que là, tu parles de 50% de la capacité. Comment ça se passe sur le terrain? C'est quoi les difficultés que tu rencontres là, chaque jour? Là?
J'écoutais ton intro tantôt, puis la principale difficulté, tu l'as mentionné tantôt, c'est le flou puis le fait que les gens ont pas peur du gouvernement. Mm-hmm. On se fait dire d'un côté qu'il faut avoir 10 personnes maximum dans un souper de maison, autour d'une table, mais il y a aucune directive quant au nombre de personnes qu'on peut prendre sur une réservation.
Okay.
Donc les gens vont appeler, ils vont dire regarde, on est 20 personnes, Alex, on peut-tu venir asseoir? Moi, je suis un peu pris entre l'arbre et l'écorce. Je veux dire oui. En même temps, est-ce que j'ai le droit de le faire? J'ai pas le droit de le faire. Il y a rien qui nous dit précisément qu'on n'a pas le droit de faire. La seule chose, c'est qu'on a le droit d'avoir des tables de plus de 10 personnes. Donc, la plus grosse difficulté en ce moment, c'est l'incompréhension de la loi, puis la faiblesse aussi des mesures qui sont prises par les gouvernements, puis la santé publique sur les gens qui ne respectent pas.
Oui, bien j'imagine. Parce que toi, quand tu entends parler d'un bar ou d'un restaurant qui n'a pas respecté les règles puis qui ne semble même pas avoir d'amende, ça doit te faire peur d'être parti avec l'eau du bain, là, dans le sens que ça peut vous affecter s'il y a des cas de contamination, puis ça doit être un cauchemar pour vous de dire on devrait reconfiner et fermer votre établissement à nouveau.
Ben, on l'a déjà vécu à une autre échelle. Hein. Si on se rappelle, au début de l'été, lorsqu'ils nous ont permis de réouvrir nos commerces, il n'y avait pas de restrictions quant à l'heure de fermeture. Mm-hmm. On pouvait fermer à 3h du matin, vendre de l'alcool, il n'y avait pas de problème, tout était beau. Maintenant, on se retrouve avec une limitation avec un resto-bar comme le nôtre, il faut fermer à minuit. À minuit, pour arrêter de vendre de l'alcool, à moins de garder nos cuisines ouvertes jusqu'à 3h du matin. Fait que là, il s'est ramassé une espèce de flou total où tous les bars sont mis à servir des nachos, des grilled cheese, ce que tu veux, pour rester ouvert jusqu'à 3h du matin, puis contourner la règle. Fait qu'on se retrouve avec une panoplie de commerçants qui font pas attention, qui respectent les règles de façon très, très, très sommaire, en les contournant un peu. Puis d'autres restaurateurs, on n'est pas tout seul dans le paquet, il y a certains commerces qui font super attention, puis nous, notre côté, non seulement on est affecté par la possibilité que le gouvernement pourrait nous reconfiner, mais aussi par le fait que nous, on refuse des clients, tandis que c'est la concurrence déloyale, en fait.
OK, je comprends.
On a des restaurateurs et des bars qui, eux, vont accepter une clientèle infinie, dans le sens où ils respectent pas les règles, ils ont des tables collées les unes sur les autres, ils vont fermer quand même jusqu'à 3h du matin en contournant les règles. Ils ramassent les clients que nous, normalement, on aurait pu prendre. Mm-hmm. Nous, on est fermés parce qu'on veut respecter ça, puis le gouvernement n'a absolument rien. Absolument rien.
Ben, c'est assez révélateur. Effectivement, être pénalisé parce qu'on respecte la règle, puis une sorte de concurrence déloyale, c'est bien dit. Puis d'ailleurs, à cet effet-là, sans toi à l'aise de répondre, mais est-ce qu'il y a des inspecteurs qui passent ou est-ce que ça semble surveiller ça dans les restaurants en général?
Je vais être bien honnête avec toi. Les inspecteurs, on a eu les premières semaines. La première semaine qu'on a réouvert, oui, il y a eu des gens de la CNSST qui sont passés. Mm-hmm. Il y a la police aussi qui est passée pour nous dire qu'ils visiteraient. Mais depuis, je dirais que j'ai pas vu d'inspecteur ou de gens de la sécurité de la santé publique depuis au moins 2 mois.
Aïe, aïe. Donc, excuse Alexandre, pas scandalisé, mais surpris de ça parce que on entend parler de reconfinement par un gouvernement en ce moment qui ne semblent pas être capables de faire respecter les règles. C'est assez dommageable, on s'entend. Si on fait respecter les règles, puis comme tu dis, tout le monde les respecte, on ne reconfinera pas au final. Là.
Exact, exact. Puis c'est ce qu'on, c'est ce que la plupart des restaurateurs s'attendent à voir des forces de l'ordre autour. Et si on veut, moi j'ai pas de problème. En fait, moi j'essaie de pas me positionner d'un côté ou l'autre. Si on décide en tant que société que les mesures, c'est beau, on n'en veut plus, qu'on les enlève pour tout le monde, qu'on arrête de mettre des règlements. Par contre, si on décide en tant que société que les mesures, on veut les garder, puis on veut prendre cette direction-là, puis faisons l'appliquer par tout le monde. Sinon, c'est comme je disais tantôt, ça devient de la concurrence déloyale. Mm-hmm. On se retrouve avec un système qui a deux poids, deux mesures.
Oui. Non, je pense que c'est ce qui se passe. Puis j'ai l'impression qu'on a beaucoup de bonne volonté, même de la part. Puis ils font un bon travail, là. On contredit pas ça. Mais je pense qu'ils ont de la difficulté à faire appliquer ces règles-là. On les met en place, mais au final, en ce moment, je pense que il n'y a pas personne qui a peur d'avoir des contraventions, que ce soit des commerçants ou des particuliers. Puis c'est dommage parce qu'on parle à reconfiner. Et pour vous, les restaurateurs, comment ça se passe avec le public? Parce qu'il doit y avoir une gestion qui s'installe quand tu refuses des gens parce que tu faut que tu respectes la règle. Est-ce que les gens comprennent ça? Quand il y a des réservations, est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que ça implique d'aller au restaurant?
Encore une fois, il y a une énorme incompréhension au niveau de la règle. Lorsque il y a des points de presse, des gens qui les font restent tellement flous et vagues, puis ils laissent tellement place à l'interprétation que les gens sont un peu mêlés. Mm-hmm. Des fois, c'est 10 personnes, des fois, c'est 50, des fois, c'est 250 personnes dans un événement, des fois, c'est 1,5 mètres, des fois, c'est 2 mètres. Ouais. Ce qui est dur, c'est gérer l'exception, puis de faire comprendre au monde c'est quoi qui s'applique à notre domaine à nous. Et même chez les restaurateurs, il y a de l'incompréhension, puis il y a certaines personnes qui vont penser une chose, d'autres un autre. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est clair, c'est que en théorie, mm-hmm. Ce qu'on a le droit de faire, c'est d'avoir des tables de 10 personnes maximum et toutes ces personnes-là, en théorie, devraient habiter dans le même foyer. Ouais. C'est ce qui est dit par le gouvernement. Mm-hmm. Est-ce que c'est possible et raisonnable de penser que les gens sur une table de 10, vivent tous dans le même foyer, je pense pas.
Ben, c'est pas vérifié. Je suis allé souvent au restaurant. Ils n'ont pas fait d'enquête sur moi à savoir si la personne était dans mon foyer ou pas.
C'est pas ma job en tant que restaurateur.
Ben non, c'est sûr.
C'est de t'accueillir, de faire passer un bon moment, de faire passer une belle soirée. À partir du moment que tu prends une réservation chez nous, moi, je prends en considération que ton côté, tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir et dans la mesure du possible pour respecter les règles. Moi, de mon côté, je le fais. Après ça, c'est au consommateur et au client de faire sa part.
Ben oui. Aussi. Évidemment, sinon ça finit peu. Mais rapidement, Alexandre, aussi, on s'était parlé hors onde. Tu disais que des fois, il y a une difficulté. Les gens ont des belles intentions, mais arrive le moment de souper puis ils ne sortent plus ou ils ne se présentent pas. C'est accentué. Les no-shows, qu'on appelle.
Oui, exact. Mais ça, c'est un problème qui a toujours existé.
Ah, OK.
Puis il y a plusieurs restaurateurs dans la ville de Québec qui en vivent les conséquences. Le problème, c'est que si j'ai exemple 20 réservations un soir, puis qu'il y en a 10 qui se présentent pas, je me retrouve à en avoir refusé probablement 10, 15 de plus en soirée, c'est des clients qui peuvent pas sortir. Donc, nous, on a décidé de mettre en place un système où on demande un ticket modérateur, si tu veux, on demande une préautorisation aux gens lorsqu'ils réservent un petit montant significatif de quelques dollars lorsque les gens appellent pour réserver, qu'on prend sur une préautorisation de carte de crédit, puis les gens s'assurent qu'ils se présentent, parce que pour nous, c'est un fléau. Réserver une table en terrasse, le temps, c'est qu'on donne toujours un lousse au client, 10, 15, 20 minutes entre le moment de sa réservation puis l'arrivée réelle du client, mais c'est ce 20, 30 minutes-là qui peut, la table peut être libre. C'est des pertes énormes d'argent au bout de l'année, au bout d'une soirée.
Ben, fléau qui s'est accentué. Imaginez, le restaurateur, il est à 50% de sa capacité, puis il y a des fins finaux qui réservent puis qui ne se présentent pas. Je sais pas, mais vous faites bien de valider. Puis ça, c'est sans compter ceux qui réservent à trois places en même temps. Donc, ne faites pas ça à la maison. C'est pas, surtout pas ces temps-ci. On retient le message. Très éclairant, Alexandre Grenier, là, de nous avoir parlé de ce qui se passe. Et on souhaite le meilleur, que tes confrères respectent les règles, que tout reste ouvert. On s'en reparlera, puis lâchez pas.
Merci, à très bientôt.
Merci, bye-bye.
Salut.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Avec François-David Bernier.
On continue la conversation sur les bars. On parle de l'histoire du karaoké. Tout à l'heure, on a parlé à Alexandre Grenier de l'atelier à Québec qui nous a dit qu'il n'y avait pas vraiment il n'y a pas d'inspecteur qui passe dans un restaurant, dans un bar. Ça semble pas très sévère. Puis on le dit. Qui a peur de faire un party en ce moment? Les règles sont-elles vraiment respectées? Et c'est un peu frustrant d'entendre parler de reconfinement quand on se demande pourquoi le gouvernement n'agit pas sur le terrain. Je veux pas avoir de l'air trop sévère, mais si on veut pas repartir dans le reconfinement, il faudrait que le monde... Malheureusement, la société, on marche souvent au bâton pas à la carotte. Bon. Mais là, le bâton n'est pas là pour que les règles soient respectées. Maître Boily, qui est avec moi...
Ouais, va falloir sortir le bâton un moment donné. Là.
Ben, je vois pas... En tout cas, moi, dans mon entourage, je nommerai pas personne. Non. Il y en a des gros parties, OK? Puis tout le monde... Tout le monde ne semble pas craindre une amende. Ben, comme le disait tantôt Alexandre Grenier, ses confrères qui des délinquants dans le domaine de la restauration ne semblent pas craindre ces amendes-là. Là.
Exact. Ils n'appliquent pas toutes les règles de la même façon. Puis le problème, c'est que c'est toujours les pommes pourrites qui font payer les autres. Hein. C'est comme dans n'importe quoi dans la population. Alors, il y avait raison de dire, votre interlocuteur, M. Grenier, là, il avait tout à fait raison de dire, nous autres, on fait bien notre travail, on respecte les règles, on en voit d'autres qui ne font pas, puis un, c'est de la concurrence déloyale, je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que les clients qui ne vont pas chez lui, ils vont ailleurs. Pendant ce temps-là, ben, les gens ne respectent pas, puis ça va faire en sorte... M. Dubé, le nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, l'a dit cette semaine. Écoutez, là, si, puis... Tu sais, on n'a pas voulu être prophète de malheur à l'émission, mais on l'a dit dès le début au mois de mars, M. Bernier. Souvenez-vous, on disait aux gens, respectez les règles.
Alors, je l'ai écrit dans le journal.
Oui, mais on l'a dit, puis on l'a redit, vous l'avez écrit, tout le monde. Bon, et on l'a dit, si vous ne respectez pas les règles, les lois sont là pour ça. Les décrets sont adoptés de jour en jour depuis le mois de mars. Et là, évidemment, ce qui est arrivé au bar karaoké, bon, on a vu cette semaine, d'ailleurs, il semblerait qu'il n'y aura pas d'accusation de portée contre le propriétaire du bar, mais ça va peut-être venir, ça. On comprend que les gens...
Oui, mais... Tu sais, on s'entend, on est dans la... Puis encore là, je m'excuse à ceux qui me trouvent trop sévère, puis je suis pour la logique, puis bien souvent, je suis easygoing, laisser aller bien des affaires.
Ouais, mais il y a des limites.
On est... C'est la justice. Puis comment la justice, ça fonctionne, c'est l'exemple.
Bien, c'est ça, c'est le bâton par carotte, comme vous disiez. Ouais. Alors,
mais s'il n'y a pas d'exemple sur un récalcitrant, il n'y a personne qui va...
C'est ça, puis on le disait tout à l'heure hors d'onde. Écoutez, il y a des cas où on se dit, bien là, à un moment donné, le gros bon sens doit s'appliquer. Et vous avez parlé là, des gens qui portent des masques. Alors, il y a des gens qui portent des masques, puis là, on dirait que parce qu'ils portent un masque, tout le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste aussi est important. La santé générale de la population, le fait que les gens se protègent contre d'autres virus, ça aussi, ça compte. Mais là, on dirait que les gens pensent qu'il y a juste la COVID, puis il y a des gens qui disent qu'il n'y en a pas de COVID. Alors, mais de là à ne pas respecter les règles, bien, ça va faire quoi en bout de ligne? Ça va faire que si on continue à faire comme c'est passé dans ce bar là, sur la rue Kerouac à Québec, là, on dit qu'il y aurait 40 individus qui auraient été contaminés sur un nombre de je ne sais pas combien ils étaient, mettons qu'ils étaient une centaine, c'est quand même beaucoup. Ces gens-là, c'est parce que ça fait de la contamination communautaire. Alors, il y a même des jeunes dans des écoles qu'on sait, là, qui, à cause qu'ils ont, ils ont côtoyé ces gens-là, ils deviennent à ce moment-là contaminés. Puis quand ils sont contaminés, ben les bulles qu'on a fait dans les classes, là, on est obligé de prendre ces classes-là de ces enfants-là puis dire, vous retournez chez vous 10 ou 14 jours. Alors là, évidemment, ce que M. Dubé a dit cette semaine, moi, je peux pas être en désaccord avec ça, si on peut pas respecter ces règles-là, ces normes-là, parce qu'on parle des écoles aussi, là. Ben là, il y a des écoles qui décident que ça s'applique d'une façon X, d'autres d'une façon Y. C'est pas partout pareil, mais c'est important de comprendre que il faut que ces règles-là aient des résultats. Hein? Vous parlez de bâton puis de carotte, là. Mais pourquoi on veut faire peur au monde?
Pas pour les amendes, mais
non,
Non, mais je pense à des gens d'affaires qui vont Je sais pas, moi, avoir un restaurant, bien entendre reconfiner, je viendrai.
Ah non, non, non. Écoutez, la deuxième vague, faut pas que ça arrive.
Mais je comprends pas pourquoi sur le terrain. Je comprends que c'est pas. On peut pas tout voir,
non,
mais
impossible.
Pourquoi le gouvernement est sur le frein en ce qui a trait à donner des contraventions aux récalcitrants pour donner l'exemple?
Ouais.
C'est mais pourquoi, Maître Boily?
On voit cette semaine, on a vu la CNESST engagé, ou en fait, ils ont mis des gens sur le terrain là, pour vérifier dans les écoles si c'était appliqué. Bon, est-ce que ces gens-là pourraient faire le tour des...
Attendez, Maître Boily, ils ont dit ça d'un bord.
Ouais,
on a un témoin tantôt qui dit qu'ils ne passent pas.
Non, non, ils ne passent pas. Mais il reste qu'ils peuvent passer quand même. C'est pas parce qu'ils n'ont pas passé à certains endroits qu'ils ne passent pas à d'autres. Okay. Mais il reste que, cela étant dit, oui, il faut avoir des règles plus strictes. Oui, il faut avoir des inspecteurs pour les faire respecter. Encore faut-il que les gens les comprennent, les règles. Tout à l'heure, j'ai votre interlocuteur qui disait, écoutez, il y a de l'incompréhension des règles, c'est clair. Il y a des gens qui ils pensent qu'ils font correctement, mais ils ne le font pas. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une instruction qui soit faite, il faut que les gens soient instruits, on leur dise, parce que vous savez que le droit, là, c'est bien beau, là, mais le droit de faire des choses, surtout si des gens ne respectent pas, parce que les propriétaires, on voyait au Club Price cette semaine, encore une fois, on voyait des gens qui étaient près l'un de l'autre, puis avec des paniers qui se côtoyaient. Bon, les responsables d'établissement sont responsables de faire respecter les règles. Maintenant, les gens aussi, la population, on peut pas dire, ben là, le responsable du restaurant ou du bar m'a pas dit que je devais me tenir à plus de 2 mètres. C'est-à-dire, c'est des règles qui s'appliquent, partout.
Ouais.
Alors, il m'a pas dit qu'il fallait que je mette un masque lorsque je me déplace. C'est des règles qui s'appliquent partout, à l'intérieur. Alors, vous devez le faire, vous êtes dans un bar. Si vous êtes attablé à une table et vous mangez, puis là, vous parliez de 10 personnes par table, là, êtes-vous de la même famille ou pas? C'est à vous de faire ça. C'est comme votre déclaration d'impôt, Maître Bernier. C'est une déclaration volontaire. L'impôt prend pour acquis que vous dites la vérité. Alors, quand vous allez dans un restaurant, dans un bar ou dans un établissement public, bien, on prend pour acquis que vous êtes assez intelligent pour faire ce que les directives disent. Ah, des covidios, on le dit depuis le début, il y en a plein. Il y a des gens qui ne respectent pas les directives.
Ouais.
C'est le problème. Ça va faire que lorsque la deuxième vague va arriver, puis là, vous le dites, là, les restaurateurs, ils ne veulent pas fermer.
Mais
là,
faites attention, M. Boily, puis je me rappelle le conseil aussi. On parle des covidios, c'est une chose,
ouais,
mais moi, c'est... Puis, tu sais, je me parle à moi-même en même temps, c'est... Tu sais, au début, il y avait beaucoup de covidios, mais maintenant, c'est pas rien que les covidios.
Non, non,
il y en a pas. Tu sais, des gens qui vont... La plupart du monde, en ce moment, vont aller au restaurant,
ouais,
même, ils vont se rencontrer,
ouais,
même s'ils sont pas dans la même résidence.
Ouais.
Je veux dire, j'ai-tu bien compris cette règle-là? C'est qu'au resto, en ce moment... Il faut que tu sois de la même...
La même famille. C'est
le
droit jusqu'à 10 à une table, mais de la même famille. Mais combien il y a de familles de 10 personnes au Québec encore? On avait dans le temps, mon père, il était...
Mais ça veut dire qu'en ce moment, au restaurant...
Mais c'est pas le cas, il y a la...
J'ai un rendez-vous avec ma mère qui habite pas chez nous, puis je vais manger avec. Théoriquement, j'ai-tu le droit d'aller au restaurant?
En principe, vous n'êtes pas dans le même... Vous n'êtes pas dans la même... Vous ne vivez pas ensemble. Donc, si vous allez au restaurant, vous devriez être à 2 mètres. C'est ça que la directive dit.
Bon.
Mais quelqu'un qui reste dans le même endroit, dans la même maison, ils ont droit jusqu'à 10 personnes. Mais combien sont 10 dans le même logement? Il n'y a pas tant que ça, là. Puis qu'ils vont au restaurant en plus. D'habitude, 10, quand ils vivent 10 dans le même logement, ils n'ont pas les moyens d'aller au restaurant.
Mais c'est alors, pas... Puis ce que je dis,
clair,
ceux qui n'appliquent pas ces règles-là, c'est pour moi... Pas sûr qu'on peut les appeler des covidios. Je pense que c'est le commun des mortels en ce moment.
Les gens
veulent vivre normalement.
Ouais, c'est ça. Mais ils se rendent pas compte que le virus, il est là. Le virus, lui, il se fout bien de la directive, puis des règlements, puis des décrets. Le virus, lui, il est là, puis il continue, tant qu'il n'y a pas de vaccin, il continue à se répandre.
À quelque part, j'ai l'impression qu'on se donne des directives. Puis comme celle-là, je pense qu'elle est inappropriée parce que tout le monde va au resto sans se dire si on est de la même maisonnée. Mmh. J'ai l'impression qu'on se justifie en donnant des directives. Moi, je donne l'exemple. Je vois dans les écoles. Bon, je nommerai pas l'école en question. Mais je donne un exemple.
Ouais.
On se met une procédure en place. Ben mais ouais, cette procédure-là, est-ce qu'elle est efficace? Pas vraiment.
Voilà,
on se dort le blason en disant on a mis une procédure. Je donne l'exemple. Bon, à l'école, il y a une cour d'école. Puis là, je vois ça. Ils ont mis une belle règle, là, vraiment préventive. Le parent ne doit pas rentrer dans la cour.
Ben oui, okay? C'est ça.
Mais imaginez ce que ça fait. Il y a une grande cour.
Exactement.
Il y a un trottoir devant. Et là, il n'y a pas un parent dans la cour qui est à 2 mètres. Ils sont tous sur le bord de la clôture, collés, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la cour. Que la belle directive a dit, pour se protéger, on ne rentre pas dans la cour. Mais c'est ridicule.
Ils se font une belle jambe avec ça. Puis d'un autre côté, c'est peut-être pas aussi efficace de l'autre bord, parce que les gens de l'autre côté sont poignés.
Des fois, il y a des directives qui servent à pas grand-chose.
Faut pas juste faire des directives.
La directive est établie. Puis ça encore une fois, on ne peut pas tirer de roche à personne. Mais regardez tous les réunions, même publiques. Ça commence tout le temps bien. Tout le monde a son masque.
Exact.
Regarde à la fin de la réunion du party.
Des bars, c'est la même chose.
C'est plus respecté.
Exactement la même chose dans les bars. Le problème est là. Et puis là, c'est que lorsque... Souvenez-vous, là, à partir de la mi-mars là, jusqu'au début juin, là, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas rien. On ne pouvait pas sortir, les rues étaient vides. Là, ça recommence. Puis là, les gens ont comme tout oublié.
Il faut se le rappeler.
Tantôt, là, quand il va arriver une deuxième vague, puis qu'on va reconfiner, là, les gens vont dire « j'aurais donc dû ». Les « j'aurais donc dû » de ce monde, là, ils vont se dire
« c'est ça.
Les autres vont dire « il est trop tard ».
Mais le gouvernement a peur de l'image de l'État de droit. Et je dis pas qu'il faut donner des contraventions en outrance sans jugement, mais il faudrait peut-être donner un exemple sur les cas les plus évidents pour que les gens comprennent que les règles doivent être respectées.
En tout cas, on verra à suivre parce qu'on va voir plus tard ce qui va arriver parce que ces gens-là, éventuellement, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce qu'on ne pourra pas continuer à être aussi libertin.
Tu sais, pour ceux qui vont dire « Ah, ils sont donc bien à l'extrême puis sévère », non, on dit ça aux gens. Évitons donc de se reconfiner. Ça a eu des conséquences terribles pour des gens, des entreprises qui ont tout perdu. Fait que essayons de faire un effort collectif. À suivre, Maître Boily.
Oui.
Merci beaucoup.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Avocat à la barre.
Avec François-David Bernier.
Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
Quand on pense au virus de la COVID-19, évidemment, on parle beaucoup d'un vaccin. On attend un vaccin pour reprendre nos vies, pour nous protéger. Et ce vaccin-là, déjà, on voit qu'il y a des avancées. Il y a le gouvernement canadien qui a signé des ententes avec des gens qui vont produire ce vaccin-là. Mais la question qu'on se pose tous, c'est une fois qu'on aura ce vaccin-là, on sait que le vaccin, c'est efficace quand beaucoup de gens se font vacciner. Est-ce que ça pourra être obligatoire? Est-ce qu'on pourra vous forcer à vous faire vacciner? Et on en parle avec Maître Patrick Martin Ménard, avocat du cabinet bien connu de Ménard Martin. Quand on parle de droit de la santé, c'est à eux qu'on pense au Québec, évidemment. Ils ont représenté beaucoup de gens dans ce domaine-là et on voulait éclaircir tout ça. Bonjour, Maître Martin Ménard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous pensez d'une vaccination obligatoire?
Bon, d'abord, c'est certain que c'est une question qui frappe l'imaginaire de plusieurs personnes actuellement de penser que on pourrait imposer une vaccination obligatoire. Moi, je vous dirais, c'est une question d'abord qui est très prématurée, parce que on n'a pas encore de vaccin. Il va quand même y avoir un long délai avant qu'on en ait un. Lorsqu'on va en avoir un, il va y avoir évidemment la question de l'approvisionnement qui va se poser. On va devoir prioriser les personnes vulnérables. Alors, la question va seulement se poser à un moment où on va avoir, disons, un apport suffisant de vaccins et une masse critique de la population qui va déjà avoir été vaccinée. Donc, c'est une question que c'est pas demain la veille qu'on va être pratique confronté à ces questions-là. Ceci étant dit, mm-hmm. est-ce que le gouvernement a le pouvoir d'imposer une vaccination obligatoire? La réponse est oui. En vertu des pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés dans le contexte de la loi sur la santé publique, là, dans le contexte d'urgence sanitaire, mm-hmm. Le gouvernement peut imposer des mesures, dont une vaccination obligatoire, pour contrôler là, le risque d'une maladie qui poserait un risque important pour la santé publique. Mm-hmm. Oui, il pourrait l'imposer. Maintenant, je pense que c'est une décision qui ne va pas être prise à la légère. Vous savez, au Québec, on a toujours pris un peu une approche de volontariat, si on veut, par rapport à la question de la vaccination. Donc, le fait d'imposer une vaccination obligatoire, c'est une décision qui va avoir certainement des implications politiques, une décision qui va être certainement aussi contestée par un pan de la population.
Ouais.
Mais il est tout à fait concevable que le gouvernement en vienne à prendre cette décision.
Parce que notre meilleur comparable, c'est la H1N1, où est-ce qu'on n'a pas, il y avait eu une vague de vaccination, puis là, à cette étape-là, on n'avait vraiment pas imposé la vaccination. Là.
Exact. Évidemment, le H1N1 avait des proportions nettement inférieures à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est une question qui avait été posée aussi à ce moment-là.
OK. Et est-ce que... Parce qu'un vaccin, c'est plus préventif qu'une urgence. Est-ce qu'on pourrait en arriver à dire que c'est urgent que la population soit vaccinée? Ou...
Évidemment, je pense que c'est toujours dans le contexte des objectifs qui sont poursuivis par la santé publique. À quoi va ressembler la situation dans un an, dans deux ans, dans trois ans, lorsque la question va se poser? Je pense que c'est ça qui va vraiment guider la réponse qui va y être donnée mm-hmm. à ce moment-là. Ceci étant dit, moi, je pense que c'est tout à fait dans l'intérêt public absolu, dans la mesure où on a un vaccin qui est efficace et qui comporte peu ou pas de risques significatifs. C'est tout à fait dans l'intérêt public que le plus grand nombre de personnes possibles se fassent vacciner. Maintenant, ce sera aux décideurs, le politique, là, de voir dans quelle mesure.
Mais un des problèmes, c'est qu'un vaccin comporte quand même des risques. Ils sont minimes souvent, mais il y a quand même des risques. Là. Ça risque de faire peur à certaines personnes.
Effectivement. Puis au Québec, on a aussi pris l'approche là, justement d'indemniser les victimes de la matérialisation de ces risques-là de vaccination. Même dans la mesure où la vaccination demeure un acte volontaire, mm-hmm. s'il y a des personnes qui sont victimes là, de la matérialisation des risques rares, ils peuvent avoir une indemnisation dans un régime qu'on appelle sans rigueur à la faute. Donc, ils font justement la preuve de leur préjugé.
Bon, mais déjà pour beaucoup de gens, parce que Maître Martin Ménard, on sait que, bon, on a vu l'obligation du port du masque, on sait que le gouvernement a tardé, mais quand on parle de droits et libertés individuelles, on est toujours prudent, évidemment. Et là, on a eu quand même, malgré l'obligation du port de tissu, beaucoup de contestations. Comment vous voyez ça? Parce que vous défendez des... Il y a toutes des règles assez strictes du droit à la sécurité, à la vie, consentement, des soins, c'est tellement sévère. Comment vous voyez ça, justement, là, de devoir vacciner, puis c'est quand même beaucoup plus intrusif que porter le masque, il y aura beaucoup de contestations, là, si ça arrive.
Oui, mais c'est ça. Puis je vous dirais que les bases de contestation qu'on voit pour le port du masque obligatoire sont légalement très douteuses pour la plupart. Il y a, mm-hmm. il y a certains fondements légitimes, par exemple, bon, des personnes qui ont des conditions médicales qui ne sont pas reconnues, peut-être, les personnes qui ont peut-être plus de difficultés vraiment à accepter le port du masque en raison d'une condition de santé de santé mentale ou autre. Évidemment, il y a plusieurs considérations qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est clair qu'un vaccin est beaucoup plus intrusif. Par ailleurs, là, il y a une question toujours de mise en équilibre des droits individuels et des objectifs de santé publique. Mm-hmm. Le principe de base, en fait, là, en matière de soins de santé au Québec, c'est que toute personne est libre de consentir ou de refuser des soins pour autant qu'elle soit apte à prendre cette décision-là. Maintenant, comme toute règle, il y a des exceptions.
Ouais.
Ici, je pense qu'on est dans un contexte exceptionnel, puis le gouvernement a la délicate tâche de mettre en équilibre les droits individuels et l'intérêt collectif.
Ben, c'est On comprend bien ça. Puis pour vulgariser tout ça, c'est que, bon, on vous dit vous avez le droit de refuser ou d'avoir un soin. Bon, c'est votre vie, ça vous appartient. Donc, on le comprend bien. Vous pouvez refuser ou accepter. Exception en fait des mineurs. On a vu tous les cas avec les témoins de Jéhovah et des choses comme ça. Bon, mais quand on parle d'un vaccin, c'est dire, bien, on doit te soigner parce que si on ne te soigne pas, ou prévenir, parce que ça a des conséquences sur d'autres personnes. C'est plus seulement le soin à notre corps. C'est que si on n'a pas ce vaccin-là, on peut être contagieux. Je pense que c'est cet élément-là qui peut jouer et qui fait peut-être qu'on pourrait obliger. Là.
Exactement. Exactement. Puis je vous dirais le parallèle qu'on fait aussi beaucoup, c'est avec des mesures d'isolement obligatoires au niveau de la santé publique, par exemple, pour les personnes qui sont COVID positifs. Puis ça, d'ailleurs, c'est des mesures de longue date. Là, la loi sur la santé publique qui débute des années 2000. Okay. Ça a été appliquée dans d'autres situations. Par exemple, une personne qui est porteuse de la tuberculose. En vertu de la santé publique, on peut la mettre en isolement obligatoire, donc la priver de liberté pour protéger la santé publique, donc pour protéger la population en général contre le risque de contagion que présente cette personne-là. Donc c'est un petit peu le même parallèle qui peut être fait à ce niveau-là. Puis la loi québécoise, en fait, à l'instar de plusieurs autres juridictions, a de nombreux outils qui sont à la disposition des autorités de santé publique là, pour justement s'assurer de bien pouvoir protéger la santé publique.
Ouais, on comprend bien. C'est pas pour rien qu'on a adopté ces lois-là, ne sachant pas exactement ce qui allait arriver. Puis je pense que c'est dans les premières fois que cette loi-là est si importante, l'état d'urgence sanitaire. Je pense pas qu'on a vu ça au Québec avant, là. Non, c'est ça. Bon, et ça fait réfléchir. Comme tout ce qui se passe ces temps-ci est assez exceptionnel et nouveau pour la... C'est sûr qu'on a brimé des droits et libertés comme jamais, je pense, au Québec, mais la raison en était de la fameuse règle, les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres commencent, puis quand on parle de propagation, on comprend pourquoi. Donc, pour ce qui est du gouvernement, on ne croit pas assister à cette imposition-là. Mais là, les employeurs, malgré qu'il n'y a pas d'imposition par le gouvernement, pourraient imposer ce vaccin-là à quelqu'un, à leurs travailleurs. Est-ce que ça serait possible?
Je vous dirais, les contours de ça ne sont pas encore parfaitement définis au niveau de la loi. C'est tout à fait concevable que dans certaines situations, un employeur puisse l'imposer à son employé. Il y a une décision, en fait, qui est une décision faisant référence à une décision d'arbitrage. Donc, je vous dirais, il y a un contexte qui est particulier où essentiellement, une infirmière qui avait refuser un vaccin contre l'influenza qui était vu, en fait, demandé par son employeur de quitter les lieux de travail, évidemment, en raison du risque que ça présentait pour les patients et pour les autres les employés. Cette décision-là, donc, avait été confirmée, mais il y avait des éléments dans la convention collective qui faisaient aussi en sorte que l'employeur pouvait prendre certaines mesures à ce niveau-là. Donc, mais c'est tout à fait concevable que sur une base de nécessité, et pour protéger, par exemple, soit une clientèle vulnérable, soit un milieu de travail qui est particulièrement important, un employeur puisse demander que ses employés soient vaccinés. Par exemple, si on pense des gens qui travaillent en milieu hospitalier, des gens qui travaillent en CHSLD auprès de clientèles plus vulnérables, c'est tout à fait concevable.
Je comprends. Dans le fond, on le pense en CHSLD, si ça peut sauver des vies, protéger. Un employeur qui va forcer ce vaccin-là et qui en est justifié par sa nature, par sa, comme vous le dites bien, un hôpital, CHSLD, ça va être beaucoup plus dur à contester. Mais peut-être qu'une entreprise qui, ça changera pas grand-chose, que les gens soient vaccinés ou pas, pourrait se faire débouter en cours, là, si elle l'impose.
C'est ça. Comme je vous disais, les contours de ça, de cet aspect-là ne sont pas encore parfaitement bien définis. C'est clair que ça va certainement faire l'objet de décisions au niveau des tribunaux qui vont venir petit à petit définir peut-être la portée de ça. Je crois que, évidemment, c'est un aspect sur lequel Le législateur québécois devrait se pencher davantage pour vraiment bien
encadrer
et donner des bonnes lignes directrices.
Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Je pense que je ne crois pas à ce que le gouvernement va l'imposer, mais je crois que des entreprises le feront. Et j'ai moi aussi l'impression que ça va monter aux barricades. Donc peut-être que le gouvernement pourrait prévenir le coup. Bonne idée, Maître Ménard. Donc, merci beaucoup pour nous avoir éclairé dans ce dossier-là, Maître Patrick. Martin Ménard, et on se reparlera de la suite de cette évolution-là. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Bye-bye.
Au revoir.
C'est déjà tout pour nous aujourd'hui. Ça passe trop vite, mais il y a demain, 11h, Avocat à la barre continue et on répondra comme à l'habitude à vos questions, les questions du public que vous pouvez poser au 187 Cube Radio ou sur le Facebook. On se retrouve demain. Bye-bye.
Cube Radio.